BFM Radio, les grands débats, Nicolas Dose.
Confrontation autour de l'info sur le web. Comment fonctionnent les sites d'information en ligne? Ont-ils un modèle économique viable? Sont-ils concurrents aujourd'hui ou finalement un petit peu solidaires? Tous, en tout cas, revendiquent une réelle indépendance. Mais l'indépendance, plus elle est grande, plus elle coûte cher. Voilà, depuis plus de 2 ans, vous avez vu que de nombreuses grandes signatures de la presse française se sont lancées dans une nouvelle aventure, dans la création de sites d'information 100% en ligne. Il s'agit souvent d'un journalisme d'enquête qui revendique son indépendance avec une force totale. Et la plupart de ces sites se sont fait remarquer, souvent en sortant des exclus, des informations totalement inédites que tout le monde a repris derrière. La nouveauté, c'est aussi le caractère participatif de cette presse en ligne. Partout, on a vu des communautés se créer, avec des blogueurs dans tous les coins, mais au sein même des sites. Voilà, cette indépendance totale vis-à-vis des grands groupes, vis-à-vis des puissances financières, vis-à-vis aussi des corporatismes qui fabriquent et puis qui distribuent les journaux depuis l'après-guerre dans notre pays, tout ça a un prix. Alors la difficulté est de trouver le bon modèle économique. On les appelle les pure players, c'est-à-dire les sites d'information non adossés à un média classique. Et moi j'ai voulu en savoir plus, alors je me suis dit réunissons-les tous, qu'ils viennent tous dans le studio de BFM pour qu'ils nous racontent comment ça fonctionne. Pierre Aski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur de Rue 89. Rue 89, c'est le 6 mai 2007, c'est ça?
Exactement.
Et alors en fait, bakchiche.info, c'est avant vous.
Oui, tout à fait.
Voilà, c'est en mai 2006. Et Nicolas Beau est avec nous, bonjour.
Oui, bonjour. Vous êtes... Enfin, ils étaient deux étudiants sortis de l'école de journalisme qui, pendant plus de 18 mois. Donc, en fait, le site a vraiment été lancé il y a 15 mois.
Voilà, bon, garde entre le moment où l'idée germe, le moment où elle existe concrètement. Vous êtes directeur de la rédaction de Bakchiche.info. Vous avez fondé, d'ailleurs, Bakchiche.info. On peut le dire comme ça.
Oui, avec ses étudiants, justement.
Voilà. Éric Lézard est avec nous, cofondateur de Slate.fr. Bonjour.
Bonjour.
Alors c'est le dernier né là, on est d'accord là-dessus?
Oui.
J'ai vu 10 février 2009.
C'est exact.
C'est Jean-Marie Colombani, Éric Lézard, donc vous-même, vous êtes à l'origine du projet. Éric Le Boucher, donc qui est aussi dans l'aventure.
Absolument.
Mais qui lui est toujours salarié dans Je les Échos.
Exactement.
Ouais, voilà. Et il y a Jacques Attali aussi qui vous suit.
Jacques Attali et Johan Hufnagel qui était l'ancien responsable de la rédaction de 20minutes.fr.
Bon alors vous allez nous raconter un peu où vous allez. On vous connaît moins que les autres. Et je suis avec François Bonnet. Bonjour.
Bonjour.
Et directeur éditorial de Mediapart, 16 mars 2008. Mediapart.
C'est ça.
Et ouais. Louis Plenel, François Bonnet, donc Laurent Mauduit, qui est un habitué du 9-10 de Stéphane Soumier sur BFM pour terminer Good Morning Business. Gérard Desportes, voilà. Il y a un truc particulier quand même chez Mediapart, c'est que vous êtes le seul qui fait payer, c'est ça?
Oui, on est un site pour partie payant sur un système d'abonnement.
Pour partie, il faut s'abonner, sinon on a que la
lune. Non. Il y a tout ce qui est participatif dans le site est en lecture absolument libre et complète.
C'est le contenu éditorial.
C'est l'ensemble de la production journalistique qui fonctionne sur un système d'abonnement mensuel.
Alors, lequel d'entre vous a le statut d'entreprise de presse? Y en a-t-il un qui a aujourd'hui ce statut, qui est délivré quand même par commission paritaire attachée à Matignon et tout et
non,
tout.
Pas encore. La loi n'a pas, enfin les règles n'ont pas changé. Vous savez que c'était un gros enjeu, notamment aux États généraux, et que le statut d'éditeur de presse en ligne vient d'être décidé. Il n'est pas encore entré en vigueur. Mais pour être un éditeur de presse en France, il faut avoir du papier. Et donc pour l'instant, nous n'avons pas ce statut.
Mais quand il existera, nous l'aurons.
Ouais, oui. Et Éric Lézard. Et vous le souhaitez, j'imagine.
Oui, bien entendu.
Vous avez le sentiment d'avoir existé aux États généraux de la presse, Pierre Aski?
Écoutez,
Nicolas
moi,
Bois,
je, moi, j'en ai fait partie et je suis resté jusqu'au bout pour défendre cette idée justement d'éditeur de presse en ligne. De ce point de vue-là, voilà, on a obtenu satisfaction. Il y avait un risque de distorsion de concurrence énorme entre cette aide qui était apportée aux entreprises de presse traditionnelles pour leur survie et ce secteur émergent que nous représentons ici, créateur d'emplois, de richesses, d'innovation aussi, et qui n'était pas dans l'écran radar des décideurs. Donc, il fallait changer ça. Il fallait éviter que pour sauver le vieux monde, on écrase le nouveau monde. Donc voilà, cet objectif a été atteint en tout cas.
Bon, il faut quand même préciser que ce n'est pas fait. Moi, je suis moins optimiste que Pierre là-dessus. C'est-à-dire que ce que je constate, c'est que les États généraux claironnés qui ont donné lieu à de grands discours du président, pour avoir donné lieu à un grand discours du président de la République fin janvier, depuis, ne s'est strictement rien passé. Donc, il y a un amendement qui se promène en commission à l'Assemblée nationale, qui n'est toujours pas adopté, dont les contours demeurent flous, ou en tous les cas objet de discussion.
Et le problème, c'est qu'ils l'ont introduit dans la loi Hadopi. Donc
je pense que
ça fait un problème.
Voilà, donc c'est attention, c'est pas fait.
Oui, il a été, pour le faire passer, ils l'ont mis dans la loi.
Donc s'il se
promène au gré de divers textes dans des formulations différentes. Et donc, il faut quand même noter que ces états généraux de la presse ont donné lieu pour l'instant à un soutien d'urgence à la vieille presse, si on peut dire, à la presse papier, mais que effectivement toutes les innovations qui tentent de survivre sur le web pour l'instant restent dans un vrai flou juridique. Nous sommes tous des sites de journalistes avec des journalistes professionnels.
Alors justement, ma question,
ayant la carte de presse, et nous n'avons toujours pas une reconnaissance juridique minimum d'une entreprise de presse.
Tout le monde est-il payé chez vous aujourd'hui? Je sais pas, Nicolas Beau, Bakshi.
Oui, on a 12 salariés en CDI. Et on a une trentaine de pigistes, dessinateurs, journalistes qui sont payés mal. Nous-mêmes, l'échelle de salaire est entre 1400 et 2500 euros par mois. Moi, venant du Canard, j'ai diminué par
Canard quatre, enchaîné,
par quatre mon salaire.
Oui, on a appris dans un livre récent qu'on était bien payé au Canard enchaîné.
On est très bien payé au Canard enchaîné. Bon, mais donc voilà. Mais l'aventure vaut le coup. Et c'est pas qu'une question de salaire. Mais on est obligé d'avoir une grille de salaire extrêmement basse et
d'accord.
Stricte.
C'est pareil chez vous tous, Pierre.
Oui, vous savez, nous on a 20 salariés en CDI, les alignés sur la grille de la convention
collective. Donc là,
collective,
on parle de 89 pages précises, parce que comme vous êtes tous là.
Voilà, on a choisi la grille de la convention collective de journalistes de la presse écrite. L'idée de base, hein, franchement, on est tous issus de la presse écrite. On a pas mal d'heures de vol dans la presse écrite.
Vous avez tous roulé votre boss et vous aviez tous quand même un nom.
Et on n'est pas,
votre,
et on n'est pas.
Libération, Piraski, tout le monde sait qui c'est. Ouais.
Enfin, mais on n'est pas passé sur Internet pour faire moins bien, ni journalistiquement, ni socialement. Mmh. Parce que, cette idée qui est souvent répandue que l'Internet c'est du journalisme low cost, c'est pas une fatalité. C'est un choix humain. Il y a des gens qui font du journalisme low cost
quand
sur Internet.
C'est pas notre choix.
On dirait même que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on cherche à sauver le journalisme de qualité. Notre démarche à tous ici, c'est les médias traditionnels sont confrontés à une vraie crise. Ils ont des rédactions dont la qualité et le nombre ne cessent de baisser. Et nous, on tente de sauver ce qui peut être sauvé.
Quand vous dites sauver ce qui peut être sauvé, c'est sauver
le journalisme de qualité, sauver la capacité des journalistes à faire leur métier de manière indépendante et avec un certain nombre de moyens.
Bon, chez vous
alors, avec des modèles
aussi, on est payé chez Sled.fr.
Donc nous, on a 4 salariés qui sont payés, une trentaine, quarantaine de contributeurs qui sont tous payés.
D'accord.
Et l'équipe va augmenter en taille.
On va parler de la ligne éditoriale et du fait que c'est principalement au travers des exclus, des exclusivités que tout le monde parle de vous.
Je voudrais revenir d'un mot sur les salaires.
Ouais.
Non, moi, je crois que la presse et même peut-être les télés demain sont condamnés à une révision déchirante et que les salaires qui ont été pratiqués à la presse ne seront plus ceux-là.
Enfin, en même temps, attention, parce que moi, je pense que c'est une profession qui, depuis une quinzaine d'années, a été quand même extrêmement précarisée.
Presse écrite, vous dites?
Presse écrite, et journalisme en général. Il suffit de regarder le fonctionnement d'un certain nombre de rédactions et que ça pèse véritablement sur les contenus. Donc, la question n'est pas de défendre un statut social. Je veux dire, on a fait tous des paris professionnels. Ça marche pas, on verra. La question est quand même de se donner les moyens de pouvoir exercer correctement son métier, d'avoir des moyens pour travailler. Nous, on est effectivement 25 journalistes temps plein, CDI, convention collective de la presse parisienne, sur des salaires qui sont
de Mediapart,
plutôt élevés. Mais c'est, alors on verra si on peut tenir sur cette base-là, mais je veux dire, par rapport à la précarisation extrême de toute une frange de jeunes journalistes... Qui n'est pas neuve, mais je crois qu'aujourd'hui on atteint vraiment des sommets dans le genre. Il faut aussi réagir là contre.
D'accord. Avant de marquer une pause et de rentrer plus dans le détail de ce que vous faites véritablement, Slide.fr est donc la déclinaison d'une maison mère américaine, qui d'ailleurs, pour se lancer, est quand même resté adossé à Microsoft pendant de nombreuses années.
Absolument. Avant d'être pris par le groupe Washington Post.
Par le Washington Post. Ça commence en 1996. 7 millions de visiteurs aujourd'hui.
Américains, pas nous.
Les gens qui se disent, tiens, après ce débat, je vais aller faire Slate.fr. Ils ont un quotidien. Ce que j'ai lu vous concernant, c'est que c'est plus culturel que news, que c'est plus magazine.
Non, ils ont pas un quotidien, ils ont un magazine.
Un magazine. Donc ça veut dire qu'il faut y aller tous les vendredis, tous les lundis, tous les...
Non, c'est le concept du magazine quotidien.
D'accord, c'est du magazine quotidien.
Ce sont des chroniques, des analyses, des papiers avec des angles, des commentaires, des points de vue sur les phénomènes de société ou sur les faits d'actualité. Et il y a de nouveaux articles tous les jours. D'accord. Donc c'est la volonté de mettre sur le net un peu de journalisme à valeur ajoutée.
D'accord. S'il n'y avait pas des Attali, des Colombani derrière, ça aurait une chance d'exister, ou c'est vraiment la caution nécessaire? Partout on trouve des grands noms. On a Laurent Mauduit, François Bonnet, Louis Plenel chez Mediapart. Enfin, voilà, Nicolas,
ça crédibilise le projet auprès des financiers, auprès des investisseurs, auprès des partenaires.
Vous tous, vous avez des plumes confirmées de la presse, quoi. C'est pas possible. Pieraski là-dessus.
Je pense qu'effectivement, les projets qu'on a lancés auraient été très difficiles à lancer pour des jeunes de 20 ans qui sortent d'une école de journalisme, parce que il y a un problème à la fois de crédibilité. Nous, on a apporté nos cautions de la presse écrite en termes de crédibilité, et aussi évidemment pour trouver des financements, etc. Mais je pense pas non plus que ce soit la clé. La clé, c'est le modèle journalistique qu'on pratique, c'est-à-dire qu'on est arrivé avec des pratiques journalistiques qui étaient contestées et de plus en plus obsolètes dans le reste de la presse. Et je pense que tous, chacun avec son modèle, parce qu'on fait pas la même chose, essaye de retrouver à la fois les fondamentaux du journalisme et de l'adapter à l'écosystème d'Internet.
On doit marquer une pause. Vous réagirez, Nicolas Beau, dans un très court instant. Je vois que vous leviez le doigt très sagement. À tout de suite. Regard sur les sites d'information sur le web avec Pierre Aski, le cofondateur de Rue 89. Eric Leser, le cofondateur de Slate.fr, le dernier né. François Bonnet, enfin pas Eric Leser forcément, mais le site. François Bonnet, directeur éditorial de Mediapart. Et Nicolas Beau, directeur de la rédaction de Bakchich. Alors Nicolas Beau, vous vouliez dire quelque chose, je ne sais absolument pas quoi. Donc je vous laisse la parole. Bien devant le micro s'il vous plaît, Nicolas.
Je suis un peu une exception là à Bakchich, parce que l'équipe tous, ils ont entre 25 et 35 ans. Et moi je crois que la relève viendra de cette génération là parce que c'est une génération justement qui accepte des conditions de salaire qui sont pas celles qui est habituelle dans la presse, et deuxièmement qui accepte de travailler 10 ou 12 heures par jour.
Il y en a beaucoup qui ont commencé à faire ce métier quasi gratuitement. Moi j'ai eu des expériences au début.
Non, on paye tout le monde, on paye absolument tout le monde.
Vous recevez beaucoup de CV tous?
Oui,
beaucoup. Bon, c'est unanime là visiblement. Est-ce que vous vous considérez, Pierre Aski, comme concurrent de Mediapart, Bakchich et les autres?
Je pense que la notion de concurrence est totalement différente sur le web.
Vous savez, je me suis demandé si vous n'étiez pas plus pote que concurrent, honnêtement, en vous faisant venir. Bon, vous vous connaissez bien sûr.
Oui. Vous savez, quand vous êtes en presse écrite, vous réclamez l'exclusivité de votre lecteur. Il y a la plupart des gens ont lu le même quotidien toute leur vie, et rares sont les gens, sauf pour des raisons professionnelles, qui en lisent 3-4. Sur Internet, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que le mot navigation veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'on passe d'un site à l'autre. Tout le monde a son circuit de navigation.
Sauf Mediapart où il faut 9 euros par mois.
Ça, bon. C'est clair.
Ou 5.
Ou 5 si on est étudiant ou chômeur.
Et moi, je pense, quand Slate s'est lancé, les gens me disaient, un concurrent de plus, etc. Moi, je pense que plus il y a de gens sérieux qui font de l'information de qualité sur le web, mieux ça sera, parce que
si on a encore deux ou trois qui apparaissent, je sais pas si vous direz ça. Enfin,
Si. Je pense que c'est important qu'il y ait une vraie crédibilité de l'information sur le web. Il y a des lieux d'excellence journalistique qui vont se formaliser. Certains seront issus de la presse traditionnelle, d'autres seront comme nous des pure players. Voilà, tout ça va se décanter par la suite. Oui. C'est important que ça se passe comme ça aujourd'hui.
Éric Leser, François Bonnet après.
Je suis tout à fait d'accord avec Pierre Aski. Donc le fait qu'il y ait plusieurs pure players crédibilise, et que les pure players travaillent avec des modèles différents, mais avec une volonté de...
Pas des modèles économiques proches là pour l'instant, hein.
Non, très, on va en parler justement des modèles économiques très différents entre eux.
On va vous l'expliquer un peu plus tard, je pense, les uns et les autres. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait plusieurs pure players comme nous le faisons les uns et les autres, ça crédibilise tout simplement le modèle, en tout cas rédactionnel,
on va dire. Ça crédibilise, ouais.
Quand il y a plus de restaurants dans une rue, ça attire plus de monde. C'est aussi simple que ça. C'est ça.
Pas mal.
L'image
est jolie. Et c'est vrai que si le restaurant est vide, on n'a pas envie de rentrer.
S'il n'y en a qu'un seul dans une rue, on se pose des questions.
Non, c'est pas mal. Allez-y, François Bonnet.
Non, mais moi, je crois qu'il y a une concurrence et c'est très bien, justement. C'est bien parce que ça nous oblige à bouger. Ça nous oblige à être attentifs, à tenter d'innover, de faire bouger nos sites.
Il y a un face à face, oui, c'est très stimulant.
Et donc, c'est très bien. Donc,
les échos, la tribune, c'est sûr que chacun se regarde. Mais s'il y en avait 15...
On se connaît, on a travaillé pour certains d'entre nous, on a travaillé de longues années ensemble dans des titres anciens. On a aussi des désaccords, et c'est bien aussi d'avoir des désaccords. Donc tant mieux. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, je pense, et c'est là l'essentiel, ça dit que quand même la crise de la presse, moi je suis convaincu de ça, c'est d'abord une crise de la proposition éditoriale. Qu'est-ce qu'on propose à nos lecteurs? Et la crise de la vieille presse papier, si l'on peut dire, c'est cette crise-là.
et l'émergence de différents sites web, je pense qu'en même temps on est très différents, chacun a une identité très marquée. Ça permet de proposer une variété de contenus, d'offres éditoriales beaucoup plus grandes, des traitements différents.
De tout dire.
Voilà, en gros, on aère de tout dire, mais surtout d'avoir de nouveaux sujets, de nouveaux types d'informations, de nouvelles manières d'écrire. Bon, ouf, enfin, ça aère un peu.
Alors, est-ce que c'est la liberté, l'indépendance ou les scoops qui vous font vivre?
Allez-y, Nicolas. Deux observations, moi, les critiques. Sur la vieille presse papier, de sites qui sont dirigés par Edoui Plenel ou par Jean-Marie Colombani, qui ont façonné cette vieille presse papier, puisqu'ils ont dirigé pendant 10 ans le Monde, et l'ont laissé dans l'état où il est. Donc moi, je trouve qu'il faut être sacrément schizophrénique pour lancer des sites après et critiquer la vieille presse papier qu'on a...
C'est le fondateur de Mediapart.
C'est la première chose.
Et
deux, c'est vrai qu'on a intérêt à ce qu'il y ait de plus en plus de sites d'infos, parce que ça nous crédibilise, mais c'est vrai aussi qu'il y a une bagarre sur la pub derrière qui est très forte, parce qu'il y a qu'un marché publicitaire, et que la bagarre, elle est pas entre les pure players et puis entre eux, elle est entre tous les sites qui soient adossés aux grands médias, entre eux, parce que les gagnants à 1, 2, 3 ans, c'est une dizaine de sites qui récolteront 84% de la manne publicitaire, et les autres ne l'auront pas, ils auront des miettes, ils seront obligés de fermer. Bon, donc là, il y a une vraie bagarre sur la pub.
La bagarre sur la pub, et puis la crédibilité, enfin, le procès de la vieille presse, je pense que c'est là-dessus que vous voulez réagir.
Je voudrais juste répondre, sur la crise de la presse papier. Je voudrais simplement dire que la crise de la presse papier quotidienne, et pas le fait d'Edoui Plenel ou le fait de Jean-Marie Colombani, il y a plus de modèle économique pour la presse quotidienne papier, c'est vrai en France et c'est vrai aux États-Unis. Tout simplement parce que les recettes publicitaires se sont effondrées et que leur modèle fonctionnait avec des recettes publicitaires importantes. Et
En allant sur le web, Eric Leser, vous vous êtes affranchi des NMPP et du vieux système.
On s'est affranchi de ce qui est industrie,
ouais.
Et de ce qui pèse énormément sur la rentabilité potentielle de la presse papier.
Est-ce que c'est l'existence web, Pierre Aski, qui vous permet d'avoir une garantie, une indépendance totale, de garantir une indépendance totale? J'ai un auditeur qui dit, je suis sûr qu'ils disent pas tout. Bon.
Je crois qu'il y a deux choses. Il y a effectivement le fait aujourd'hui que le web est un vrai espace de liberté, mais je crois que c'est pas ça. Je crois que le fait d'avoir quitté le monde de la presse dite traditionnelle nous affranchit surtout d'une chose, c'est de l'autocensure. Parce que ce dont souffre
ça ne s'est pas produit chez Rue 89.
Nous sommes une jeune entreprise avec la moyenne d'âge, comme Bakchich, est très jeune. Je pense qu'il y a une nouvelle culture journalistique qui est en train d'émerger dans cette génération des journalistes web, qu'on n'est pas inséré dans tous les réseaux de connivence ou de... Je dis pas ça pour accabler mes confrères, mais c'est vrai qu'il y a un côté... On n'est pas affranchi des lois, parce que ce sont les mêmes, mais on est affranchi des pesanteurs de tous les microcosmes qui pèsent sur le reste de la presse. D'accord. C'est vrai. Ça durera peut-être pas éternellement, mais en tout cas c'est le cas aujourd'hui.
François Bonnet, sur la garantie d'indépendance, est-ce que pour vous le web effectivement vous a apporté la possibilité de dire oui, nous sommes indépendants, nous ne dépendons plus de quelqu'un qui vend des sacs à main en Chine ou des armes ou des avions de chasse? On a le droit maintenant de dire... Il y avait un passage qui m'avait frappé dans le livre de Schneiderman, livre d'entretien avec sa fille, où il disait, remarquez, même dans les canards aujourd'hui papier, vous avez des journalistes qui vont garder le truc le plus croustillant et le meilleur pour le site et qui vont pas l'écrire dans le papier, mais qui vont le mettre sous forme numérique parce que c'est là où ça se passe finalement et c'est là où on se sent le droit de le faire. Allez-y, François.
Non, je pense que c'est pas spécialement le web, parce que la bataille de l'indépendance, elle devrait être la même, et elle est parfois la même. On l'a vu par exemple avec la bataille de la rédaction des Échos, quand Arnaud a voulu à tout prix et est parvenu à ses fins à racheter le journal Les Échos. Donc, la question de l'indépendance de la presse. Numérique ou papier dans notre pays aujourd'hui, c'est une question très lourde et très importante. Nous, on a créé Mediapart essentiellement sur cette question-là.
Mais bien sûr.
C'est un site qui a été créé par des journalistes. Je veux dire, on a mis notre argent, on en contrôle le capital. Donc, pour l'instant, on est, je dirais, absolument maître chez nous. Et en plus, et on y reviendra, j'imagine, on est sur un modèle économique. Nous, on a choisi de ne pas avoir de publicité et de construire la viabilité de Mediapart avec ses lecteurs, c'est-à-dire en leur demandant de s'abonner, donc de contribuer financièrement à la survie de ce projet de médias indépendants. Voilà, donc c'est pas spécifiquement le web. Je pense que la question de l'indépendance des rédactions aujourd'hui est une question générale et que dans le paysage particulier de la présidence Sarkozy aujourd'hui, c'est une question très lourde.
Je voudrais simplement rajouter une chose sur l'indépendance, c'est que l'indépendance n'existe à moyen ou long terme qu'à condition qu'on ait des modèles économiques viables et qu'on gagne tous de l'argent, ou en tout cas qu'on n'en perde pas. C'est clair.
C'est Rue 89 qui va dévoiler que le JDD a fait la censure de l'abstention de Cécilia Sarkozy au second tour de la présidentielle. C'était grave, ce phénomène, d'avoir censuré cet article.
Évidemment.
C'est vous qui allez le révéler. C'est l'un des faits d'armes de Rue 89.
Tout à fait. C'est ce qui nous a permis de nous faire connaître au début. C'était une semaine après notre lancement. Évidemment que c'est grave parce que vous avez le débat a existé pendant la campagne électorale et tout d'un coup vous voyez la manifestation dès la première semaine où le patron d'un des plus grands groupes de médias français,
Lagardère,
proche ami personnel du président, censure un de ses journaux pour ne pas faire d'ombre au nouveau président.
Ouais, c'est journal qui s'est auto-censuré sans doute.
C'est évidemment très grave. Et on avait auparavant l'affaire Genestar Paris Match, etc. Il y a tout un système aujourd'hui, et c'est vrai que c'est pour ça que le web apparaît aujourd'hui comme un espace de liberté, parce qu'il échappe au contrôle de tous ces groupes. Mais vous citiez tout à l'heure les marchands d'armes, d'avions, etc. Mais on est quand même dans un drôle de pays où certains des grands médias sont détenus par des gens qui...
Il y a le clan des hauts, Pinot, Bolloré...
Voilà, il n'y a pas d'équivalent dans les autres pays européens.
Juste deux mots.
Oui,
Pour nous, c'est la course à l'audimat. Parce que pour avoir de la pub, il faut avoir des visites.
Eh oui, je ne sais plus où est-ce que j'ai lu qu'à 1 million, on commençait à attirer les annonceurs, mais qu'en dessous d'un million, c'était difficile. Et on va parler donc du modèle économique. Il y a plein de choses au-delà de la pub. Et j'ai vu d'ailleurs que vous êtes tous plein d'idées, parce que vous avez tous commencé à développer des à côté. L'histoire du mur virtuel de rue 89, j'ai trouvé ça assez drôle. On achète une brique à l'année dans un mur virtuel et puis on paye 15 ou 350 euros. À tout de suite.
FM Radio, les grands débats, Nicolas Dose.
Grand débat autour des sites d'information sur Internet, d'information en français, et de leur viabilité, de leur modèle économique. Ils revendiquent l'indépendance, mais l'indépendance totale et réelle, elle coûte cher. Pierre Aski, cofondateur de Rue 89, est avec nous. Eric Lézer, cofondateur de Slate.fr, le dernier né, le 10 février 2009, qui se veut un magazine politique et culturel. Alors, consultation quotidienne, mais dans l'esprit du magazine. Il est le petit frère ou petite sœur de Slate.com, qui a vu le jour aux États-Unis il y a un peu plus de 10 ans, qui compte aujourd'hui 7 millions de visiteurs. D'ailleurs, 15% du capital est détenu, je crois, Eric Lézer.
Exactement, par le Washington Post qui possède Slate.com.
Voilà. Il y a un auditeur qui voulait savoir combien d'argent vous avez démarré, qui sont vos actionnaires, donc pourquoi vous plus que Bakshish ou Mediapart,
je pense qu'on peut tous le dire.
Les
fondateurs chez nous sont majoritaires, donc on a le contrôle. On a donc le Washington Post, on vient d'en parler, et on a un fonds d'investissement.
Voilà, un fonds d'investissement. Ben voilà, Claude à Paris qui posait cette question est donc satisfait. Il y a un auditeur, Gabriel, qui estime que les pure players que vous êtes n'ont pas encore intégré tous les avantages du web, tout ce que ça permet en termes de design. Enfin, il estime qu'il y a des progrès à faire sur le visuel. Alors, comme disait d'ailleurs François Bonnet, directeur éditorial de Mediapart, vous êtes des journalistes à la base. Moi, on me demanderait de le créer un site de toute pierre. J'en suis incapable. Nicolas Beau est avec nous, directeur de la rédaction de Bakshish également. Je crois que je vous ai tous cité. Concernant le modèle économique, question de Basile dans le 3e arrondissement de Paris. Qu'en est-il de l'influence de Google News? Alors, la question n'est pas si inintéressante. C'est tout neuf, Google News. Et moi, j'ajouterais les sites web des médias, des vieux médias, François Bonnet. Les Libé.fr, les Le Figaro.fr. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'infos. Ça s'actualise. Il n'y a pas forcément beaucoup d'exclus qui vont... Mais quelquefois, ça arrive. Notamment, on a vu Alternative Économique, qui est un mensuel, sortir sur son site des trucs un peu neufs. Là, il y a un phénomène qui n'est pas négligeable, malgré tout, François Bonnet.
Bien sûr, mais je pense qu'il y a deux modèles économiques en discussion. Il y a un modèle qui est dit gratuit, qui crée évidemment l'illusion, puisque le gratuit est le tout publicitaire. Et puis, il y a un modèle qui tente de ne pas détruire de la valeur, pour utiliser des mots de financiers, ce qu'on fait bon nombre de ces sites de quotidien papier. Quand Le Monde met la quasi-totalité de son contenu en accès libre, pourquoi aller acheter Le Monde support papier? Pour ne pas citer nos collègues français, citons nos collègues américains.
Vous pouvez citer qui vous voulez.
Le New York Times.
Même la Tribune,
non, mais
qui
je pourtant
fait partie de la maison.
Parce que c'est un débat général. Le New York Times, depuis deux mois, si vous voulez, est en train de réfléchir à comment ils vont pouvoir monétiser, comme ils disent, leur contenu sur le web. Nous, quand on a lancé Mediapart il y a un an et demi, on l'a lancé sur un principe simple.
Mars 2008, quand même.
Qui était, quand on a annoncé notre projet, tout le monde nous a beaucoup rionné, on nous a pris pour des fous, tout simplement parce qu'on disait, mais écoutez, le journalisme a une valeur, donc il a un coût, donc il faut que quelque part, il y a un mode de rémunération.
C'est comme la musique et le cinéma. Travail. Hein,
et il n'y a pas un modèle unique qui serait le tout publicitaire. Si on regarde les chaînes télévisées, il y a des bouquets payants, il y a des chaînes gratuites comme TF1. Je pense que le web doit et peut autoriser plusieurs modèles économiques. Ouais,
Pierre Aski, il y a Pascal Richet qui est avec vous dans l'aventure, qui dit dans Libé là tout récemment, vos amis de Libé vous ont retrouvé pour faire, parce qu'ils font une série, bon, vous l'avez évidemment vu la série, vous êtes directement concerné, ça suffit pas la pub, et notre modèle économique est encore à inventer. Pour votre modèle économique, vous, c'est bien gratuité publicité chez Rue 89.
C'est gratuité publicité et autres activités. C'est-à-dire que dès le début, nous, on a décidé qu'il ne fallait pas dépendre à 100% de la pub. D'abord, parce que c'est pas sain de dépendre d'une seule source de revenus. Et deuxièmement, parce que on a conçu un modèle sur deux pieds. Donc, on fait autre chose. On construit des sites, on fait des prestations de services. On a une activité de technologie. On a construit des sites pour des médias comme le Nouvel Obs, on a fait leur site littéraire, des institutions comme un conseil général, des associations. Là, on vient de terminer une association de lutte contre le sida.
C'est une SS2I presque.
Voilà. Deuxièmement, on fait de la formation. On vient de se faire homologuer comme centre de formation. Donc, formation continue de journalistes papier qui veulent devenir journalistes web. On a des modules, on a un catalogue de formation.
Donc, d'ouvrir une école, l'école
de l'école. On vend des t-shirts.
Le t-shirt où il y a marqué Je vous demande pardon pour ce t-shirt.
Voilà, c'est la ligne pardon, comme l'a appelé Arrêt sur Image. Et on a, vous avez fait référence tout à l'heure au mur de briques virtuelles. C'est-à-dire qu'on peut, c'est un site de micro-publicité, donc des gens qui sont libraires à Montpellier ou web développeurs à Nice peuvent acheter une brique à la fois dans un environnement de communauté de valeur et de visibilité.
20 000 euros, ça a rapporté cette affaire?
Oui, tout à fait.
Ce qui est 20 000 euros, ils ont vendu des briques virtuelles. Vous savez, comme le type qui avait vendu des pixels, là.
C'est un anglais, ça inspirait ça.
Mais, il a gagné une fortune astronomique avec son histoire.
Là, on a un vrai désaccord avec Mediapart, c'est que nous, on pense que sur Internet, il y a un modèle économique spécifique à Internet à inventer. On ne va pas reproduire ce qui se fait.
Inventer, là, vous y êtes. Mai 2007, là, vous l'avez inventé, votre modèle
Inventé, c'est-à-dire qu'il faut faire la preuve qu'il est viable. Oui. Pour l'instant, c'est un modèle ad hoc, c'est-à-dire qu'on avance, on construit, il y a des choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. On avance vers la rentabilité, mais on n'y est pas encore.
Je pense qu'on ne peut pas...
J'aimerais aussi que Eric Lézer et Nicolas Mousse
s'expriment. On ne peut pas financer du journalisme par des activités annexes. Parce qu'il y a un jour où ces activités annexes vont vous coincer dans votre profession de journaliste. Le journalisme, c'est un métier, ça a une valeur, donc ça a des coûts. Et il faut bien arriver à financer ce travail d'une manière ou d'une autre.
Nous, notre idée,
Nicolas Beau, bien dans le micro, Nicolas Beau.
Notre idée, c'est d'aller vers un modèle mixte.
Alors, vous êtes un peu comme Rue 89?
Non, modèle mixte, par rapport à l'information qu'on donne chaque jour. On pense que la génération qui va vers le net, majoritairement, c'est des jeunes qui ont l'habitude totalement du gratuit, et que c'est illusoire de croire qu'ils vont payer pour l'info.
Ils en ont 10 000, Mediapart, je crois, pas loin.
Oui, mais 10 000,
c'est la moitié de leur objectif. C'est pas
convaincant.
18 000 abonnés.
18 000 abonnés.
Juste terminé. On a l'idée qu'il y a plusieurs publics sur le net, et il y a aussi un public qui peut payer. Et c'est pour ça qu'on a développé toute une offre de confidentielle chaque jour, et proposé à un certain nombre de groupes et d'administrations.
Ah, vous vendez
On vend le off.
Le super croustillant.
500 euros par an. Pour des administrations, des groupes privés, on a fait du mailing, etc. Comme d'ailleurs, je crois, Mediapart a fait du mailing aussi auprès d'un certain nombre de gens. Et on a eu 100 abonnements. On a le ministère de la Justice, le Quai d'Orsay.
Oui, etc. Les fameuses premières pages de l'Express et du Point que tout le monde lit en priorité intégralement. Et d'ailleurs, on ne lit souvent que ça.
On a LVMH, Veolia, Sanofi, etc. qui sont
tous les grands groupes s'achètent le off de Bakhchich.
Malheureusement pas tous. Il faudrait tous. Mais on en a 100, ce qui est déjà bon. Donc l'analyse, c'est qu'il faut aller... et troisième vente aussi. De l'info, parce que sur le plan des principes, moi je suis totalement en phase avec ce que dit Mediapart, bien sûr que ça serait,
c'est vrai,
ça serait
François Bonnet, qu'il y a un moment où on va vendre son âme à quelqu'un et on se
raconte, non, c'est pas qu'on va vendre son âme, mais ça serait mieux évidemment que les gens payent comme ils ont payé leur journal, mais de le fait, je pense que c'est illusoire. Et l'autre chose, on essaie de vendre du contenu, notamment actuellement la presse régionale, parce que, qu'on le veuille ou non, il y a une lecture très zapping du net, les gens passent très vite, on affiche un nombre de visiteurs considérable, 800 000, 1 million de visiteurs, mais la plupart restent moins de 30 secondes.
Alors,
donc le contenu qu'on publie est encore très comestible pour d'autres supports, et c'est pour ça qu'on a un accord, par exemple, avec le Télégramme, et qu'on est en passe d'en signer d'autres avec d'autres journaux régionaux.
Donc il y a les produits dérivés, on a vu ça effectivement avec Rue 89. Il y a aussi la version PDF que vous vendez hebdo
toujours.
Oui, ça
toujours, c'est un petit plus pour ceux qui s'abonnent.
Une version hebdo PDF vendue. On offre on propose et on vend du contenu. Et vous, chez vous, sled.fr, aussi alors, le contenu, visiblement, c'est la grande idée là.
Alors notre spécificité, c'est de s'appuyer sur un modèle qui réussit. C'est-à-dire qu'on tente de reproduire en France un modèle qui a réussi aux États-Unis. Alors les situations ne sont pas tout à fait comparables, mais néanmoins, en tant que pure player aux États-Unis, Slate.com a un double avantage. C'est-à-dire non seulement ils ont réussi en termes d'audience, mais ils ont réussi dans leur modèle économique également, puisqu'ils gagnent de l'argent, ils gagnent de l'argent depuis plusieurs années. Essentiellement parce que le modèle de qualité sur Internet attire une clientèle qui est monétisable, pour reprendre l'expression à la mode, auprès de la publicité. Alors on a deux pieds, nous, en termes de revenus. On a la vente de contenu, on en parlait là il y a quelques minutes. Il s'avère que nous, on a passé un accord avec Orange, et donc tous les jours, on publie sur le site d'Orange une analyse spécifique.
Vidéo, écrite ?
Écrite.
Écrite.
Un papier, une analyse, une chronique, qui est faite par nos journalistes. Et on espère reproduire ce modèle. Et par ailleurs, en termes de publicité, alors on est dans une phase de construction, donc il faut un peu de temps, mais quand on aura réussi à se constituer une audience, on pense, en s'appuyant donc sur le modèle américain, qu'elle nous permettra de nous rapporter, de nous donner des revenus suffisants. Sachant qu'en plus, la dernière spécificité, c'est que, étant un magazine, n'étant pas, on va dire, comme les concurrents ici, nos concurrents ici, même si c'est concurrents et amis, obligé de fournir une quantité d'informations aussi importante qu'eux, on peut se permettre d'avoir une structure un peu plus faible. D'accord. C'est l'avantage du magazine.
Bon, d'accord. François Bonnet, est-ce qu'un jour vous imaginez ouvrir le capital, accueillir le modèle classique où on accueille des actionnaires, alors pas forcément des mastodontes du CAC.
On a déjà un actionnaire, Thierry Willem, qui nous accompagne depuis le début, qui est très attentif et qui est très, donc ça c'est pas un problème. Pour revenir sur le modèle économique, parce que c'est très important. Ce métier est aujourd'hui détruit faute de modèle économique, et sur la presse numérique et sur la presse papier. Tout le monde tâtonne, et je pense que, si vous voulez, je soulignais que nous, quand on s'est lancé il y a un an, on faisait rire toute la place, en quelque sorte. Ce que je constate, c'est qu'un an plus tard, on ne fait plus rire, donc tant mieux. On a réussi à faire passer un certain nombre de messages.
Oui, et puis des grosses infos quand même.
Et c'est évident que ce modèle reste à construire pour tout le monde, et que je pense qu'on sera dans des formules mixtes. Eric parlait d'un accord avec Orange. On est en train, nous aussi, de boucler un accord avec eux. Donc, c'est évident qu'il va y avoir des reventes de contenu. Il doit y avoir du multi-support, qu'il doit y avoir, que progressivement, tout ça va se construire. Mais je pense qu'il faut combattre sérieusement une espèce de vulgate qui s'était installée sur l'information sur le web ne peut être que gratuite. Il faut quand même réaliser que cette information sur le web qui ne serait que gratuite est en train de détruire aussi des contenus, des savoir-faire, et de détruire largement
les
professions.
Alors, vous réagirez dans un instant, Pierre, est-ce qu'on doit absolument marquer une pause ? Ça, c'est le problème de la radio. On n'a pas la contrainte de l'écran d'ordinateur, on a la contrainte de la pendule. À tout de suite. D'auditeurs, j'en ai reçu beaucoup, mais bon, on est nombreux sur le plateau, donc faire parler les auditeurs en plus des invités. Rolf est dans le 16e arrondissement, il dit information pour François Bonnet, directeur éditorial de Mediapart. Le contenu du New York Times papier était payant sur le site web, mais depuis un an environ, tout le site est totalement gratuit, dit-il. On peut même consulter gratuitement les archives jusqu'au début du New York Times au milieu du 19e siècle. Alors la question justement du comment monétise-t-on ? Comment gagne-t-on sa vie? Comment paye-t-on ses journalistes? On peut pas avoir tout ce qu'on a sur les rues 89, les sled.fr. Enfin, je connais peu encore sled.fr. Pardonnez-moi, Eric Laser,
ça va être
le mois de février. Mediapart Bakchich, voilà. Il est évident que ça sort pas de la cuisse de Jupiter. Alors, Pierre Aski, vous, cofondateur de rue 89, après ce que disait François Bonnet pour Mediapart.
Oui, moi, ça me fait rire d'entendre François Bonnet parler de vulgate de la gratuité. J'ai l'impression d'entendre les majors de la musique qui parlent du piratage sur Internet et qui sortent des arsenaux comme la loi Adopi pour bloquer bloquer ce piratage. Je pense que c'est une, moi pour ma part, hein, je veux dire, chacun a son modèle et de fait, comme personne n'a fait encore la preuve de sa viabilité, les jeux sont ouverts. Mais je pense que c'est une erreur de s'extraire de la circulation virale de l'information qui est le propre d'Internet. Aujourd'hui, nous on a atteint cette barre du million de visiteurs uniques dont vous parliez, sans avoir sacrifié sur notre ambition journalistique. On fait pas de la course à l'audimat. Et je crois que, franchement, on est dans un système où c'est, le viral, c'est la clé de la circulation de l'information. Mettre le mur de l'argent autour du site, c'est s'exclure de ce mouvement. C'est créer un club privé qui est tout à fait honorable.
Votre avis, Nicolas Beau, vous parliez, vous, de mixité d'un modèle mixte. Est-ce que vous êtes plutôt du côté de Pieraski en disant qu'on ferme, finalement quelque chose en mettant un prix? Ou alors vous comprenez aussi ce que disait François Bonnet?
Non, mais je pense que aujourd'hui la génération qui regarde le net c'est hors de sa culture
qui n'apprendra jamais à payer.
De payer l'information, c'est tout. Donc après on peut plus philosopher dans un sens, dans l'autre, etc. Moi je pencherais plutôt dans l'absolu vers un idéal où le citoyen paierait pour être informé, bien sûr, mais de fait ce n'est plus le cas. On est dans un autre monde, donc effectivement, faire payer l'ensemble d'un site, c'est, à mon avis, c'est se condamner d'avance.
Éric Lézer, cet auditeur qui insiste, mais il a raison d'ailleurs, Basile dans le 3e à Paris, Google News, vous pensez quoi de Google News? Il dit ça va dévorer tous les autres.
C'est un vrai problème pour les médias classiques et traditionnels.
Pas pour vous.
Je pense que pour nous, jusqu'à présent, c'est plutôt un outil, c'est-à-dire ça nous permet de nous faire connaître auprès du grand public. Donc, quand nos informations sont reprises sur Google News, ça nous permet tout simplement d'élargir potentiellement notre audience. Donc aujourd'hui, c'est pas un ennemi.
D'accord.
On rediscutera peut-être dans 2-3 ans, quand on sera vraiment installé, quand on aura des modèles économiques qui, je l'espère, fonctionneront. À ce moment-là, Google News sera peut-être un problème pour nous. C'est pas le cas aujourd'hui.
On est tous d'accord. On se donne 3-4 ans à partir du moment où on est né pour savoir si on résistera. C'est à peu près ça. Pieraski, au bout de 3-4 ans, on est encore là, on se dit qu'on commence à avoir trouvé la martingale gagnante.
Alors la crise est venue évidemment perturber ça, mais c'est vrai que globalement, dans un an, en ce qui nous concerne, il faut qu'on ait fait la preuve de notre viabilité. Donc ça ferait à peu près 3 ans, effectivement.
Ouais. François Bonnet, quelle est la question que vous vous posez chaque matin? Trouver une exclue pour qu'on parle de nous.
Ouais,
faut une
ça
exclue,
va être
comme
non,
le canard enchaîné.
Non, c'est pas une exclue. Une exclue, c'est le bon papier, la bonne enquête, le sujet qui est pertinent ce jour-là. Ce que permet le web, c'est de nous dégager d'un certain nombre de très lourdes pesanteurs qu'on a connues dans la presse papier
en termes
de processus de production, et donc c'est une capacité de réaction, de mobilité, d'invention très forte, quoi.
Nicolas
Beau, ça se ressent évidemment dans la qualité de ces sites, parce que je pense que très rapidement l'autre chose à combattre, c'est l'idée le web serait synonyme de mauvaise qualité. Au contraire, on peut, par le web, par les liens hypertextes, par tout ce qu'on peut mettre comme document de référence, etc., appuyer en termes de qualité des productions journalistiques.
Est-ce que votre vie a changé en bien, Nicolas Beau, avec Bakchiche?
Moi, je m'amuse beaucoup, mais je suis beaucoup plus fatigué. Par rapport au rythme du canard enchaîné, c'est vrai que les choses sont pas exactement du même ordre.
C'est l'exclu qui vous fait vivre aussi, le fait d'avoir une info neuve. Enfin, je sais pas, on a imprimé avant ce débat les unes du jour, là, en tout cas à l'heure à laquelle on a imprimé. Bakchiche.info pour l'Élysée, Aznar, eh bien, le père de la petite Dati. Paf, extraordinaire.
C'est une information qu'on a sortie en janvier. Il y a un livre au Seuil qui confirme que effectivement Rachida Dati a donné le nom d'Aznar à Nicolas Sarkozy.
Bon,
ça nous plaît de sortir ça.
Mais c'est
d'expliquer pourquoi.
C'est avec des choses comme ça qu'on vit.
Non, mais d'expliquer aussi.
Il y a pas d'argent, mais il y a de la
pourquoi
l'info.
Pour nous, c'est important que la presse s'intéresse à l'identité du père de l'enfant du ministre de la Justice en France.
Pourquoi c'est pas un ragot?
Pourquoi c'est pas un ragot?
Parce
que effectivement, on a été quand on a sorti ça en janvier, vraiment on a été quasiment seul. Encore que El País l'a repris dans les 2 heures. Donc il faudrait croire qu'on n'est pas l'information n'est pas aussi inintéressante que nos confrères ont bien voulu le dire à l'époque.
Éric Lézer, pour slide.fr, vous êtes aussi à l'affût de l'exclu pour parce que je pense que c'est pas qui vous découvre aujourd'hui un petit peu quand même.
C'est pas tout à fait notre logique.
Et ça vous rendra bien service, hein, le jour où il y aura une bien grosse.
Oui, sauf qu'on fait, mais sauf qu'on fait pas de l'information directe, on fait de l'analyse de la chronique. Donc nous, ce qu'on cherche plutôt, c'est à éviter la banalité. C'est à éviter ce qu'on trouve sur les autres sites.
10 propositions sur Adopi aujourd'hui.
Voilà, c'est apporter des choses différentes.
Bon,
des angles, des explications, des mises en perspective.
Ouais. Pieraski, vous referiez rue 89?
Ah, sans hésiter.
Sans hésiter.
Sans hésiter. C'est vrai qu'on est parti sur une intuition au moment où Libération était en crise et que on n'avait pas encore perçu à ce moment-là l'ampleur de la crise de la presse, etc. Et donc on s'est retrouvé finalement à faire le bon choix au bon moment et alors qu'on l'a fait vraiment sur une base totalement intuitive. Donc c'est vrai que c'est là que se mène aujourd'hui la bataille à la fois de l'avenir économique de la presse, mais aussi de l'invention de nouvelles pratiques journalistiques.
Une question très rapide, François Bonnet, parce qu'on vous a pas entendu dans les dernières secondes. Est-ce que vous contrôlez la parole des internautes? Vous vous souvenez de l'affaire Philippis, qui a mis Xavier Niel avec Vittorio De Filippis en conflit. D'autant d'ailleurs que Xavier Niel est un ami de la société fait partie des cofondateurs de la société des amis de Mediapart. Mm-hmm. Est-ce que vous contrôlez la parole des internautes?
Non.
Dans le club, là?
Non. Non, non, contrôle pas. Il s'autocontrôle, en général.
Le jour où il y a un gros truc.
Et on intervient très, très rarement. On a une charte de modération. Intervient très rarement quand tout simplement ça viole la loi, donc là on supprime immédiatement.
D'accord. Rue 89, slide.fr, le dernier né, Mediapart, Bakchich. On n'a pas raconté l'histoire des noms, on pourrait raconter des quantités de choses, mais vous reviendrez, on verra effectivement d'être dans un an ou deux où en sont ce nouveau regard sur l'information avec des modèles économiques finalement assez variés. Merci.